Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Madame, monsieur, bonjour. Pour cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire, j'ai le plaisir de recevoir Joël Chevet. Bonjour Joël Chevet.
Bonjour.
Je précise à nos auditeurs que vous êtes historienne, journaliste pour la revue Historia et chroniqueuse d'ouvrages historiques. Vous êtes spécialiste de la société d'Ancien Régime et vous avez publié de nombreux articles et deux ouvrages, le premier sur la noblesse du Périgord et le second sur Eugène Leroy, auteur de Jacques le Croquant. Vous êtes également vice-présidente de la Fédération historique du Sud-Ouest. Mais si vous êtes au micro de Canal Académie aujourd'hui, c'est pour nous parler de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, à laquelle vous consacrez une biographie parue chez Pygmalion dans la collection Histoire des reines de France. Et oui, j'ai envie de dire, Marie-Thérèse n'est pas que l'impératrice d'Autriche et mère de Marie-Antoinette, c'est aussi donc l'épouse de Louis XIV. Alors Joël Chevet, expliquez-nous tout d'abord pourquoi Marie-Thérèse est-elle aussi peu connue ? Est-ce l'ombre du roi Soleil qui a plané sur elle ?
Je pense qu'elle n'est pas peu connue, je pense qu'elle est au contraire très connue, mais uniquement sous un seul aspect, qui est celui d'être en effet l'épouse de Louis XIV et surtout l'épouse trompée de Louis XIV. Et c'est à ce titre uniquement qu'elle semble être passée à la postérité, si bien que chaque fois qu'on évoque Marie-Thérèse, la réflexion qui surgit immédiatement, que ce soit de la bouche des historiens ou de gens simplement amateurs d'histoire, c'est « Ah, Marie-Thérèse, la pauvre !»
Pauvre Marie-Thérèse.
Pauvre
c'est ainsi que s'intitule d'ailleurs votre premier chapitre, puisque c'est le sort en effet que lui réservent les historiens.
Et peut-être aussi déjà ses contemporains.
Oui, c'est ce que vous montrez. Et donc vous êtes replongé dans les sources de l'époque pour découvrir une autre facette de Marie-Thérèse.
Disons que je suis rentrée un petit peu dans ce sujet, un petit peu avec les a priori, en effet, que tout le monde pouvait avoir sur la pauvre Marie-Thérèse. Et en effet, en revenant d'une part aux sources espagnoles et ensuite aux sources françaises, puisque la moitié de sa vie se déroule en Espagne et l'autre moitié en France, hein, 22 ans des deux côtés, donc on ne peut pas négliger la part espagnole de sa vie, je me suis rendue compte qu'en fait, elle était peut-être moins pauvre qu'on ne l'avait dit, et à divers titres.
Alors, elle a 20 ans lorsque le cardinal Mazarin et Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, prévoient de lui faire épouser Louis XIV pour sceller la réconciliation de la France et de l'Espagne. Et au départ, cette union semble satisfaire tout le monde.
Oui, d'autant qu'elle n'est pas décidée quand Marie-Thérèse a 20 ans, mais bien avant, pratiquement dès la naissance de Marie-Thérèse et de Louis XIV qui naissent la même année, à 15 jours d'intervalle, Anne d'Autriche et sa belle-sœur, qui est une princesse française, la sœur de Louis XIII, toutes deux ont déjà décidé de marier leurs enfants, en fait, dès leur naissance, puisque la guerre entre la France et l'Espagne dure depuis très longtemps, a repris en 1635. Et donc, des deux côtés, et surtout du côté d'Anne d'Autriche, puisqu'Isabelle est morte bien avant, on souhaite ce mariage qui, en effet, réconcilierait les Habsbourg et les Bourbons en guerre depuis plus de 100 ans.
Alors, il faut préciser que Marie-Thérèse d'Autriche est une infante d'Espagne.
Voilà, alors c'est toujours l'étonnement, donc le partage de l'empire de Charles Quint qui sépare donc son empire entre d'une part, la branche espagnole, qui est la branche aînée des Habsbourg, et les empereurs de Vienne, donc Saint-Empire romain germanique, qui revient à la branche cadette des Habsbourg. Donc elle porte le titre d'Autriche, en fait le titre, le nom d'Autriche, c'est le patronyme de cette dynastie.
Et elle est la propre nièce d'Anne d'Autriche.
Voilà, tout à fait, depuis le fameux mariage, l'échange des infantes en 1615, où Philippe IV épouse la sœur de Louis XIII, et Anne d'Autriche, donc... Épouse Louis XIII.
Donc Marie-Thérèse a 22 ans quand elle épouse Louis XIV. Comment la voit-on en Espagne ?
Alors en Espagne, on la voit très différemment de ce qu'on la voit en France. C'est-à-dire qu'en Espagne, elle est restée pendant plus de 10 ans l'héritière du trône d'Espagne. Donc elle est considérée, puisqu'en Espagne les femmes montent sur le trône, hein, il n'y a pas de loi salique, donc en Espagne elle a été élevée carrément pour régner. Hein. Elle est la dernière des enfants de Philippe IV donc, et d'Isabelle. Philippe IV va se remarier et aura donc un fils, enfin deux, mais dont un qui survivra et qui lui succédera sur le trône d'Espagne, mais on craint toujours que cet enfant disparaisse. Donc en fait c'est une des raisons pour lesquelles le mariage est si tardif. Elle se marie à 22 ans, ce qui est tard âgé, pour l'époque. Pour un mariage dynastique. Parce qu'en fait, Philippe IV d'abord adore sa fille, et deuxièmement, la garde sous le coude, au cas où cet enfant disparaîtrait brutalement. Donc, on dit toujours Marie-Thérèse, amoureuse de son cousin français, et ne rêvant que d'être reine de France. Moi, je suis intimement convaincue, et les sources le prouvent, qu'elle a avant tout rêvé d'être reine d'Espagne.
Mais de toute façon, d'être reine.
Oui, alors, bien entendu,
ça, c'est
d'être reine,
une
princesse Habsbourg ne peut absolument pas imaginer d'autre destin que celui d'être reine.
Et ça, c'est une des... Je veux dire, ça apparaît vraiment tout au long de sa vie.
Oui, oui, il y a une anecdote d'ailleurs assez peu connue que j'ai trouvée dans les archives des Carmélites, mais que Voltaire aussi avait repris, où les Carmélites, à qui elle a fait ses confidences en arrivant à Paris, lui demandaient si elle avait été amoureuse d'un autre jeune homme à la cour de Madrid, et où elle a répondu, mais il n'y avait pas de roi à la cour du roi Montpellier. Père. Ce qui signifie que, dans son esprit, il était inimaginable qu'elle puisse épouser quelqu'un d'autre que soit l'empereur Léopold, soit Louis XIV.
Soit Louis XIV. Alors, ce mariage avec Louis XIV, au début, je dirais, commence pas si mal que ça, loin de là. Puisque
loin
bon,
de là.
Donc, c'est un mariage politique. Mais donc, la nuit de noces, entre autres, a l'air de très bien se passer.
La nuit de noces se passe très bien. Bon, il est évident qu'elle est immédiatement conquise par Louis XIV. Lui était très inquiet, pas tellement de ce mariage. On a beaucoup épilogué sur la rupture avec Marie Mancini et sur le fait qu'il ne voulait pas épouser l'infante. Il y a certainement d'une part de l'orgueil chez Louis XIV à qui on a refusé cette infante tant de fois qu'il ne croit plus du tout à ce mariage. Et puis la peur qu'elle ne lui plaise pas, bien entendu. Et en fin de compte, ils se plaisent réciproquement, en tout cas au début. Et pendant plus d'un an, ce mariage est heureux. Et Louis XIV, dès en effet la nuit de noces, marque beaucoup de joie à avoir épousé Marie-Thérèse et l'entrée à Paris, qui est une... Enfin, je pense une des entrées royales, la dernière aussi magnifique de l'Ancien Régime, montre à quel point, au départ, ce couple présente un visage heureux et signe de fécondité et de bonheur pour le royaume.
Alors, autant l'accueil à Paris, en effet, a été triomphal, mais c'est l'accueil de la cour qui est plus froid.
Alors, l'accueil de la cour est plus froid parce qu'évidemment, on ne sait pas trop, en fait, ce que sera cette infante. Parce que je vous parlais tout à l'heure du fait qu'elle a été en partie éduquée pour régner. Et en fait, elle avait cette réputation, Madame de Lafayette et d'autres le disent, que c'est une infante qui a la tête politique et qui a des ambitions. Ce qui est très curieux quand on pense à Marie-Thérèse et à l'image qu'elle a laissée. Donc, elle est accueillie avec une certaine réticence, en fait, mais surtout par les femmes, en effet, de la cour, qui rêvent avant tout de conquérir Louis XIV et qui se demandent quelle influence elle aura sur lui et sur un roi qui n'a pas encore... qui va prendre très vite le pouvoir personnel à la mort de Mazarin, mais dont on ne sait pas encore si on pourra l'influencer ou non. Donc, évidemment, le rôle de Marie-Thérèse dans cette affaire est très attendu et on se demande quelle influence elle aura sur lui.
Alors, elle apparaît très vite effacée, quand même.
Alors, effacée, marginalisée pour de multiples raisons. Le fait qu'elle ne parle pas français, bien sûr, le fait qu'elle soit enceinte très rapidement, et que ce que l'on oublie souvent quand on imagine ces couples, c'est qu'en fait, Louis XIV comme Marie-Thérèse sont des survivants de leur dynastie. Et donc, le fait qu'elle soit enceinte, immédiatement, je dirais, on la met sous cloche. Elle ne doit plus bouger, elle ne se déplace qu'en litière. Donc, elle se retrouve marginalisée encore plus. Et c'est donc... au départ, pendant cette première grossesse, que la liaison avec Louise de Lavallière va démarrer et dont on s'étonne qu'elle ignore tout, alors que ça n'a rien d'étonnant, vu les conditions de vie d'abord dans un château immense, où on la protège de tout ce qui pourrait, la troubler et dans sa grossesse et dans ses relations avec Louis XIV. Donc en effet, une espèce de mur du silence qui s'organise autour d'elle et que sa mauvaise pratique du français au début va accentuer. Plus la mise un petit peu aussi sous l'autorité d'Anne d'Autriche, qui joue un rôle qu'elle pense être bénéfique pour sa belle-fille qu'elle a accueillie avec une affection exceptionnelle pour une princesse étrangère. Jamais une infante n'a été accueillie avec autant d'affection, autant d'espoir que ne l'a été Marie-Thérèse. De ce point de vue-là, elle a été très choyée et très entourée dès le départ. Mais en même temps, je dirais un petit peu cadenassée.
Alors, après Louise de Lavallière, c'est bien sûr La Montespan, autant c'est vrai que Marie-Thérèse paraît un peu effacée, oui. Et autant les maîtresses de Louis XIV, on les connaît bien, que ce soit là.
Alors, on les connaît bien, bien sûr. Louise de Lavallière aussi effacée que Marie-Thérèse. Et pas très... avec, je dirais, des structures psychiques, mentales, religieuses, qui sont assez proches de celles de Marie-Thérèse. Et en même temps, quelqu'un...
Duclos, d'ailleurs, avait fait les rapprochements entre les deux.
C'est la seule biographie, en fin de compte, je dirais, intéressante et argumentée de Marie-Thérèse, mais qui est essentiellement religieuse, bien sûr, et où il fait le parallèle. En effet, c'est une double biographie de Marie-Thérèse d'Autriche et de Louise de la Vallière, faisant passer Louise de la Vallière, d'ailleurs, en premier. Donc, encore une fois et toujours, on ne la voit qu'à travers le personnage de ses maîtresses, alors que cette biographie m'a permis de découvrir quelqu'un de très différent, en tout cas de beaucoup plus dense, de beaucoup plus autonome, en particulier sur le plan spirituel, que ne laissent entendre les idées reçues sur elle.
Alors pour en revenir à Montespan, là, cette fois-ci, la liaison avec donc Madame de Montespan va être beaucoup moins cachée et tout ce petit monde va se retrouver à cohabiter à la cour, puisqu'elle est dame d'honneur à la cour.
Alors, c'est déjà le cas avec Louise de la Vallière. Sinon, Louise de la Vallière est une des filles d'honneur de Madame, donc de la belle-sœur de Louis XIV. Donc, il y a déjà quand même une certaine distance. Au moins, elle n'est pas dans sa maison, ce qui est déjà ça. Maintenant, je pense que le but de Louis XIV, c'était quand même de conserver clandestine. Il y a aussi des idées reçues sur Louis XIV. Hein. Il vit ses liaisons dans une mauvaise conscience permanente. Il a un sentiment de la dignité, une peur du scandale extrême. Donc, il a souhaité le plus possible garder tout cela clandestin, que ce soit Louise de la Vallière ou Madame de Montespan. Et ce sont ses maîtresses, évidemment, qui poussent à être déclarées. Louise de la Vallière, parce qu'elle a honte du rôle qu'on lui fait jouer, Madame de Montespan, pour des raisons d'intérêt évidentes. Donc Louis XIV y est poussé, mais au départ, ça n'était pas, il ne le souhaitait pas. Je crois qu'il faut un peu insister aussi sur ce qui lie Marie-Thérèse et Louis XIV. Ça n'est pas seulement les habitudes, ou ça n'est pas seulement le fait que Louis XIV veut qu'on respecte la reine. Je pense qu'il y a une réelle affection entre eux, et qu'il y a également une ambition commune. Je vous ai dit tout à l'heure que Marie-Thérèse avait été héritière du trône d'Espagne. Qu'est-ce qui se passe quand elle arrive en France? Louis XIV relève ses ambitions espagnoles avec la guerre de dévolution et en faisant valoir ses droits. Donc elle ne pouvait rêver mieux, en fin de compte. On peut s'étonner d'une reine devenue aussi française, parce qu'on l'a dit ça aussi, la plus française, c'est Saint-Simon qui le dit, la plus française des princesses étrangères. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, leur ligne d'horizon commune sur le plan politique, même si elle ne dit rien, c'est l'Espagne. Et ils ont rêvé tous les deux d'être tous les deux sur le trône d'Espagne et de France, c'est évident.
Vous dites à un moment, d'ailleurs, vous parlez d'elle en tant que professionnelle du trône.
Alors ça oui, incontestablement. Ça, on ne peut pas lui enlever, et c'est ce que je ne comprends pas quand je lis sous la plume de certains que c'est quelqu'un d'effacé, vivant, cloîtré entre son hôtel et ses tasses de chocolat. C'est totalement faux. Il suffit de lire ses emplois du temps dans la Gazette de France. Je défie bien de nos contemporains de la suivre dans un service royal, dans une parade qui est extrêmement exigeante, extrêmement lourde. Elle est la dernière reine de France à accepter de sacrifier totalement sa vie privée à sa vie publique et de jouer ce rôle que Louis XIV lui demande, mais auquel elle a été formée, il ne faut pas l'oublier, en Espagne. Alors, une vie de famille espagnole différente, une vie de cour différente, mais une parade d'une lourdeur extrêmement pesante, qui a d'ailleurs influencé Louis XIV, donc il ne faut quand même pas l'oublier, elle est à sa place quand il faut et quand le roi lui demande.
Donc une professionnelle du trône, et finalement Marie-Thérèse est loin d'être la potiche qu'on a dit. Et d'ailleurs en 1672, Louis XIV lui confie la régence. Et comment se débrouille-t-elle, je dirais, à la tête des affaires?
Et c'est un épisode en effet qui est peu connu, qui a été quand même étudié récemment et qui montre qu'en effet Louis XIV, en tout cas en 1672, a parfaitement pris conscience du fait qu'elle, d'une part, qu'elle était d'une loyauté totale, ce qui était quand même rare de la part d'une princesse étrangère. Hein. Il faut penser à Anne d'Autriche trahissant carrément dans sa correspondance. Et lui s'en souvient, c'est sa mère, il l'aime, mais il s'en souvient. Et par contre, il ne se méfie pas de sa femme. Et en 1672, autant il avait hésité dans les années 1660 où il avait été gravement malade, il avait hésité à lui confier la régence, autant en 1672, il le fait, c'est pendant donc la guerre de Hollande. Évidemment, il est à l'étranger, mais il n'est pas loin. Mais elle a quand même des responsabilités énormes et qu'elle va assurer, alors qu'elle est enceinte, et qu'elle va assurer avec une parfaite conscience professionnelle, là encore, et ça, tous les témoignages des contemporains le disent, avec étonnement, c'est vrai. Parce qu'en fait, en épouse docile et dévouée, elle n'avait pas manifesté, elle ne s'était pas occupée de politique, mais quand on le lui a demandé, elle a été présente et elle l'a fait avec beaucoup de conscience professionnelle. Et pendant plusieurs années, même si ça n'est pas dit dans les textes, en fait, cette régence a été renouvelée plusieurs années de façon tacite.
Donc d'une part, elle se révèle à la hauteur et donc pas si bête que ça comme...
Ah non, non, mais alors, bon, la bêtise, évidemment, je n'ai pas pu mesurer son QI et je n'en fais pas l'intellectuelle qu'elle n'était pas, que n'était d'ailleurs ni Louis XIV, ni Madame de Montespan. Mais en tout cas, une jeune femme qui avait eu une éducation très soignée, il suffit de voir son écriture et la façon dont elle écrit le français quand elle écrit à sa sœur Marguerite, qui est devenue, donc, sa demi-sœur, qui est devenue impératrice, et où sont des lettres écrites dans un français parfait, sans faute, et qui ne sont pas corrigées par des secrétaires, hein, ce sont des lettres personnelles. Et en plus, quelqu'un qui, pour lire essentiellement des livres de religion, n'a pas des lectures faciles. Hein. Elle dit des auteurs comme Pierre d'Alcantara, Pierre de Grenade, et donc, bon, quelqu'un qui a, bon, qui a en tout cas énormément de bon sens, qui a les pieds par terre, et qui est donc loin d'être sotte.
On a évoqué Louise de Lavallière, Madame de Montespan, il nous en reste une dernière à évoquer, Madame de Maintenon, et qui, elle, au contraire, va tenter de ramener Louis XIV vers son épouse.
Oui, alors là, c'est très étonnant, le rôle de Madame de Maintenon, qui arrive donc à la cour comme gouvernante donc, des enfants légitimés de Louis XIV et de Madame de Montespan, et qui arrive à la cour aussi au moment où Louis XIV est fou amoureux de Mademoiselle de Fontanges. Et pendant cette idylle va durer pendant 3 ans, et Madame de Maintenon va un petit peu jouer le rôle d'entremetteuse d'ailleurs dans cette affaire. Marie-Thérèse ne l'aime pas beaucoup au départ, s'en méfie, parce qu'elle a ces fameuses très longues conversations avec le roi dont parle de Madame de Sévigné. Ça agace profondément Marie-Thérèse. Et peu à peu, elle se rend compte que le roi lui revient et que les 3 dernières années de sa vie seront heureuses parce que le roi lui est devenu fidèle. Et ça, elle le doit à Madame de Maintenon,
oui,
à une époque où bon, Louis XIV, en effet, redevient plus vertueux, revient vers des mœurs plus proches de son éducation. Et donc, elle en est très heureuse. Et on n'a jamais pu prouver, en tout cas, que Madame de Maintenon était sa maîtresse avant la mort de Marie-Thérèse.
Donc finalement, les 3 dernières années de Marie-Thérèse sont les plus heureuses. Mais au milieu de cette vie de cour, où finalement c'est une des lacunes de ce qui ressort à la lecture de votre livre, c'est qu'une des lacunes de Marie-Thérèse, c'est de ne pas avoir su se faire accepter par la cour. Et on a l'impression que dans ce monde un peu hostile, son seul réconfort était donc de se réfugier auprès des carmélites.
C'est trop dire parce que, bon, une partie de la cour lui est sinon hostile, en tout cas, elle agace parce qu'elle ne participe pas à la distribution des grâces et des bénéfices, elle s'en garde bien. Elle agace aussi parce qu'en effet, elle a une dévotion exigeante et qu'en fait, elle met ses actions à la hauteur de sa foi, ce qui n'est pas le cas de toutes les grandes dames de son entourage. Je crois qu'il faut lui reconnaître une chose parce qu'elle est la première à le faire, c'est qu'elle n'est pas seulement dévote et elle ne se contente pas de faire des bonnes œuvres. Elle participe activement. C'est la première reine de France qui fait des visites d'hôpitaux de façon extrêmement active et en mettant, je dirais, la main à la pâte. Alors ça aussi, ça agace les grandes dames qui veulent bien donner de l'argent, mais qui ne tiennent pas du tout à participer à ces tâches indignes. Donc elle a ce côté, en effet, en plus candide, on lui en veut, en fait, d'être toujours d'accord avec le roi. Ça, ça agace profondément, même ceux qui l'aiment. Je pense à la Palatine, je pense à la Grande Mademoiselle. En fait, ce qui agace chez Marie-Thérèse, c'est cette parfaite loyauté qu'elle a envers Louis XIV, ce qui est la vertu essentielle. Je crois que Louis XIV, il n'avait pas besoin d'amis, il avait besoin de gens qui lui étaient fidèles. Et Marie-Thérèse n'a jamais trahi. Elle en pensait peut-être pas moins à certains moments. Elle a toujours été parfaitement loyale avec lui. Il a su le reconnaître et l'apprécier. Et ça, par contre, ça agace profondément. Et comme ce sont les mémorialistes qui ont écrit, sont des gens de cour, il est évident que les avis sur Marie-Thérèse sont beaucoup liés à ce qu'on attend du roi et à ce qu'on attend d'elle.
Alors, nous arrivons déjà au terme de notre émission. Alors, nous avons peut-être quelques minutes pour parler aussi, j'aurais voulu qu'on aborde la question de la représentation de Marie-Thérèse, de l'image, parce qu'il y a un cahier hors texte donc, dans votre ouvrage, et l'image qu'elle a voulu donner d'elle, finalement, la façon dont elle est représentée, est assez caractéristique, j'ai l'impression, de son caractère.
Je ne sais pas si elle a vraiment cherché à donner une idée d'elle. Je ne crois pas que c'était du tout... Je crois que l'idée qu'elle avait d'elle-même était, je dirais, sans état d'âme. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où le préjugé, ce qu'on appellerait aujourd'hui le préjugé de naissance, est quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la société. Et Marie-Thérèse est persuadée qu'elle est d'une naissance supérieure à celle de ses sujets, parce que née princesse, et elle partage ce préjugé. Encore une fois, aussi bien Madame de Montespan est persuadée que sa naissance lui donne des droits supérieurs à tout le monde. Donc je crois que Elle ne s'interroge absolument pas là-dessus. On n'est pas du tout dans ce contexte. Par contre, c'est une femme qui est extrêmement coquette, quoi qu'on en ait dit, qui est très souriante.
Elle n'est pas connue pour sa beauté.
Voilà, qui est très gaie, qui n'est pas connue pour sa beauté, mais en même temps, qui est loin d'être laide. En tout cas, jeune femme, elle est, à mon avis, plutôt une petite femme plutôt appétissante, avec très jolis yeux et très beaux cheveux, tout ce qu'on appréciait à l'époque. Elle a plutôt mieux vieilli que d'autres. Donc, bon, une beauté que nous, on qualifierait de médiocre aujourd'hui, mais qui est loin d'être inexistante. Et par ailleurs, je pense, encore une fois, un sentiment de sa naissance, de son statut, de la mission que la religion lui assigne sur le trône, qui ne lui fait pas remettre en cause un certain nombre de choses et qu'elle fait respecter à tout moment et en toutes circonstances. Elle n'est pas malheureuse de ce point de vue-là.
Merci Joëlle Chauvet. J'incite donc nos auditeurs à redécouvrir cette reine méconnue. Je rappelle que vous venez de publier une biographie de Marie-Thérèse parue chez Pygmalion. Au revoir.